au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes lundi 8 septembre. Bienvenue à Lanaudière PM. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, on apprend en dernière heure qu'une lettre que Donald Trump aurait écrite à Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003 a été rendue publique aujourd'hui là, par des parlementaires démocrates. Il faut rappeler que Trump avait démenti l'existence de cette lettre-là au mois de juillet, en pleine polémique avec ses liens avec Jeffrey Epstein. La lettre qui a été obtenu par les membres démocrates d'une commission de la Chambre des représentants montre une esquisse d'un buste féminin avec des citations publiées tour à tour là, par Jeffrey Epstein et Donald Trump. Ça risque de faire énormément jaser ça dans les prochaines heures, voire même les prochains jours. À l'émission aujourd'hui, David Lapointe, il est directeur de la Société des parcs de la Matawinie. On va revenir sur le Waro Show. Pierre Paquette sera avec nous. On va parler d'un sondage Place l'actualité qui place la CAQ au quatrième rang. Marie-Joanne Boucher avec nous, elle est comédienne. Elle était ce midi la conférencière invitée au dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Michel Arnois l'a rencontrée. Robert Therrien avec nous, il est des serres au point du jour et également Mario Lavoie de la Seigneurie des Patriotes. On va revenir sur la 21e édition des Journées Portes Ouvertes Mangeons Local. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, avec nous aussi. On va parler du Bloc québécois là, qui prépare en ce moment sa rentrée parlementaire. Mais tout d'abord, il y a quelques jours là, d'un remaniement ministériel à Québec, la démotion du député caquiste Pierre Dufour la semaine passée là, fait encore des vagues et François Legault doit composer là, avec une grogne qui est de plus en plus sentie au sein de son caucus. Comme l'a expliqué à François Morin, notre analyste Mathieu Bélanger, là, en sommant le premier ministre de nommer un député de l'Abitibi, Pierre Dufour a placé le chef là, dans une position, disons, inconfortable.
Évidemment, en faisant cet ultimatum-là, je veux qu'il y ait ça, sinon moi, je pourrais quitter. Ça mettait François Legault dans une drôle de situation où, dans la culture qu'on a au Canada et particulièrement au Québec, il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de l'expulser, étant donné qu'on a comme culture, justement, que les députés sont soumis complètement à leur chef de parti. Quand il y a une contestation comme ça, ben, ça entraîne des réactions. Dans d'autres pays, comme en France, il y a une autre culture, et ce genre de contestation-là, au Royaume-Uni, on entend ça de temps en temps sans trop de problèmes. Mais chez nous, on est tissé très, très, très serré. Ce qu'on appelle la discipline de parti est vraiment très stricte. Et donc, dans ce contexte-là, ben, cette contestation-là, ça l'a amené cette action-là qui demeure, continue de faire des vagues, continue à être contesté dans un moment où la CAQ là, est évidemment plus fragile.
Il y aura un remaniement ministériel ces jours prochains. François Legault a déjà laissé entendre qu'il va s'autoproclamer ministre responsable de la région de l'Abitibi. À mon point de vue, à moi, peut-être que je me trompe, c'est rien pour faire baisser la grogne dans cette région-là.
C'est peut-être mieux quand même que d'avoir comme ministre de l'Abitibi un ministre actuellement de la Mauricie. C'est comme c'est le cas là, avec Jean Boulet qui occupe cette fonction-là. Ça envoie un message politique lorsque le premier ministre se nomme lui-même ministre de quelque chose. Pendant des années, par exemple, le premier ministre du Québec, particulièrement avec Jean Charest, le premier ministre du Québec était aussi ministre de la Jeunesse parce qu'on voulait montrer cette importance-là. Mais évidemment, le premier ministre est occupé à bien des choses. Et donc, ben, souvent, d'être ministre de quelque chose, c'est un petit peu de dire de ne pas l'être, étant donné que c'est pas finalement la priorité. Est-ce que ça va calmer les gens d'Abitibi? On va voir d'abord le remaniement, qu'est-ce qu'il va donner. Mais si c'est effectivement ça, François Legault, comme il le laisse entendre, qui serait lui ministre de l'Abitibi, est-ce que ça va calmer les gens? Ça reste à voir dans un contexte aussi où ben il n'y a pas beaucoup, que ce soit en Abitibi ou ailleurs au Québec, il n'y a pas beaucoup d'affection présentement pour la CAQ, il n'y a pas beaucoup d'écoute présentement pour la CAQ. Au contraire, il y a beaucoup de contestations, et ça risque d'être un autre élément finalement qui va être retenu contre la CAQ d'ici les prochaines élections dans maximum un an. Donc tout ça, c'est un casse-tête qui est un peu insoluble, parce qu'en même temps, François Legault veut pas nommer n'importe qui au Conseil des ministres. On veut des gens qui ont des compétences, qui sont capables de mener des dossiers? Est-ce qu'il juge que les autres députés ne sont pas ministrables? Ben évidemment, c'est juste lui qui peut répondre à ça. Mais c'est toujours un casse-tête très compliqué, peu importe pour qui occupe la fonction de premier ministre, peu importe la formation politique, tant au fédéral qu'au provincial, c'est toujours un gros casse-tête. Et ce l'est encore plus quand que le premier ministre a moins de pognes, comme c'est le cas actuellement, a moins d'adhésion de son caucus parce qu'il en a moins dans la population. Chaque faux pas peut mener une crise un peu plus grande. Et c'est ça le pari ici, le défi de François Legault, être capable de faire ça pour relancer sa formation politique, mais en même temps, de ne pas créer d'insatisfaits qui risquent de quitter et provoquer la tenue d'élections partielles qu'il risque de perdre, ce qui était justement l'ultimatum là, de M. Dufour. On va voir cette semaine le résultat de tout ça.
Bien qu'on ait envie de le faire, on ne le fera pas, on ne spéculera pas sur la composition prochaine du Conseil des ministres. Par contre, on sait déjà qu'il y a des ténors du gouvernement Legault qui vont quitter, qui ne renouvelleront pas leur mandat. Ça devient encore plus compliqué de résoudre ce casse-tête.
Tout à fait. Au moins, l'avantage qu'il a, qui est parfois un désavantage, c'est qu'il a beaucoup de députés. Donc, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à être nommés ministres. Est-ce qu'il juge tous ces gens-là? Probablement pas tous ces gens-là qui sont ministrables, justement. Comme c'est vrai dans n'importe quel... à n'importe quel moment, peu importe le parti politique qui occupe le gouvernement, c'est pas vrai que tous les députés ont toutes les compétences pour être ministres. On se rend même compte parfois que c'est pas tous les ministres qui ont les compétences pour être ministres, encore une fois, sans égard à la couleur du gouvernement. Mais il y a quand même un grand bassin dans lequel il peut aller piger. Le désavantage, c'est que ça fait donc encore plus de gens qui ne seront pas pigés et qui seront potentiellement insatisfaits. Il y a des ténors, effectivement, qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas se représenter dans un an pour diverses raisons, ce qui est tout à fait normal là, après un cycle de 8 ans. Mais là, c'est le défi entre est-ce que je tasse ces gens-là, surtout ceux qui souhaitent encore rester en fonction d'ici un an. On pense, par exemple, au ministre de la Santé actuel. Si on les tasse, on permet à d'autres gens de montrer un peu, justement, que tout ça, de quel bois ils peuvent se chauffer et pour éventuellement avoir une force de traction supplémentaire pour la prochaine élection. Mais en même temps, ces gens-là qu'on tasse, ben, risquent d'être encore plus insatisfaits, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont appréciés par la population, justement, malgré tout. Et donc, si on les tasse, ben, c'est encore une facture encore plus grande, finalement, là, par rapport à la population québécoise. Donc, c'est toujours un dilemme comment emmener du nouveau, mais en gardant du vieux, mais en même temps, faut montrer que le vieux qui reste, on fait pas juste donner une carte blanche, même s'il y a eu beaucoup de critiques, au contraire, qu'on est capable de porter un jugement, notamment avec la commission Galant dans les dernières semaines qui a montré que certains ministres étaient plus contestés par la population que d'autres. Un gros casse-tête à voir cette semaine, et historiquement, c'est rare qu'un remaniement ministériel change significativement la donne. L'idée, c'est juste de pouvoir permettre de redonner un petit élan puis qu'espérer que ça débloque sur quelque chose de plus grand. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Puis on verra au courant des prochaines semaines, à partir du remaniement de cette semaine, ce que ça va donner.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. On aura bien entendu l'occasion de revenir là sur les déboires de la coalition Avenir Québec tout au cours de l'émission aux informations à 16h30 avec Pierre Jubainville, puisque on apprend dans un sondage Palace Data daté d'aujourd'hui là que la CAQ se retrouve maintenant en 4e place derrière les conservateurs d'Éric Duhaime, et on va revenir là-dessus aussi avec Pierre Paquette un peu plus tard dans l'émission. Dans un moment, Yves Perron, député de Berthier-Mesquite.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Notre équipe attentionnée vous accompagne à chaque étape avec un service personnalisé adapté à vos besoins. Et ce n'est pas tout. Nissan a été nommé marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. Conduisez la qualité et vivez l'expérience Joliette-Nissan. Pendant la liquidation totale de Nissan, rendez-vous 800 boulevard Basse-de-Roc à Joliette pour faire l'essai routier de votre prochain véhicule. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Vous avez des nouveaux services à offrir, un talent à partager, des conseils à donner, des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée, vous voulez vous lancer. Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir, visitez notreentourage.ca pour voir.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
C'est le retour à la routine avec les enfants. Pas le temps de cuisiner ou en manque d'inspiration? La Fromagerie Victoria a la solution avec sa boutique maison. Lasagne, panne repas, sauce italienne, fromage en grains, tortillons, il y a de quoi être inspiré pour les lunchs de la famille. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Roch-de-la-Chigan, Saint-Barthélemy, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Élisabeth.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
La Naudière PM, politique fédérale.
Le caucus du Bloc québécois est réuni à Québec jusqu'à mercredi là, pour préparer la rentrée parlementaire à Ottawa. Le parti qui promet d'avoir à l'œil le gouvernement minoritaire de Mark Carney, qui doit relever, faut le dire, d'importants défis en regard des finances publiques et également des négociations avec Trump. Et un peu plus tôt, il y a le collègue, en fait hier plutôt, le collègue Jacques Plante ainsi que Michel Arnois qui ont réalisé une entrevue avec le député de Berthier-Masquinongé Yves Perron dans le cadre de la première du retour de Lanaudière et compagnie.
On peut pas parler à Yves Perron sans parler de gestion de l'offre, qui est un dossier que vous portez. Quelle stratégie on doit adopter au moment où on se parle? Parce que, bon, on le sait, on pourrait encore se faire sacrifier certains éléments pour conclure un accord avec nos voisins.
C'est là tout l'enjeu d'avoir réussi à faire adopter la loi au mois de juin dernier. Je pense de plus en plus que si la loi n'avait pas été adoptée en juin, elle serait peut-être déjà donnée, parce que le gouvernement Carney est sur une belle pente glissante où on cède sur tous les terrains.
Ouais.
Puis, tu sais, vous savez quel genre de politicien je suis. Il y a de la nuance là-dedans. C'est pas un jugement en bloc. Tu sais, les contre-tarifs, des choses comme des fois, ça nuisait aussi à nos entreprises. Il fallait des zones d'exception, ainsi de suite. Mais globalement, tu peux pas négocier en disant tout le temps oui, en donnant tout le temps toujours tout, puis en n'ayant jamais rien en retour. Donc, on est très chanceux d'avoir cette loi-là. La loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche le gouvernement de donner d'autres parts de marché. Puis le système de gestion de l'offre, là, pour ceux à la maison qui sont peut-être moins familiers, c'est un équilibre. On contrôle la quantité qu'on produit, ce qui nous permet de contrôler le prix. Puis c'est les producteurs qui s'autorégulent. Ça permet une stabilité des revenus, ça permet des investissements qu'on continue, ça permet le dynamisme dans nos régions. Et dans le lait, qui est le secteur le plus touché, on s'est rendu à 18% là, qui va être pris par l'étranger quand tous les quotas seront occupés. Là. C'est une pinte de lait sur 5, ça. Fait qu'à un moment donné, quand les producteurs essayent de diminuer la production, les Américains vont continuer à l'exporter, le lait. Là. Ils jettent plus de lait dans les États au nord des États-Unis que ce qu'on fait au Canada dans une année. Là. Les autres, ce qu'ils veulent faire, c'est du dumping. Là. Ils veulent nous envoyer... Fait que c'est important de faire cette loi-là. Là, faut être vigilant. Il y a d'autres nuances là-dedans, entre autres sur les quotas d'importation qui ont été donnés majoritairement à des transformateurs plutôt qu'à des détaillants. Il va falloir être vigilant là-dessus.
Entre autres sur le fromage?
Voilà. Fait que la différence là-dedans, c'est que si tu le donnes au transformateur, lui, il va importer des produits qu'il ne produit pas déjà. Alors qu'un détaillant qui peut vendre du cheddar québécois, par exemple, ben, il va peut-être être tenté d'importer un cheddar européen sur lequel il y a une meilleure marge de profit, puis remplacer le produit québécois sur la tablette.
Et vous avez parlé de lait, et ça me fait penser à Donald Trump, je sais pas pourquoi, là. Lui, c'est pas ce qu'il véhicule.
On change la dernière lettre.
Hein? Oui, c'est ça. mais lui, c'est pas ce qu'il véhicule. Et moi, ce que j'aurais à demander à mon bon gouvernement, là, et quand je dis gouvernement, c'est l'ensemble des partis à la Chambre des communes,
ouais.
Parce que je suis l'actualité, vous le savez. Au début, quand les tarifs ont été imposés par Trump, là, c'était Trudeau qui était là. Là, c'était panique à bord. On va se faire fourrer sur toute la ligne. Après ça, on a commencé à nous dire, là, avec l'avènement du gouvernement Carney, non, ben là, inquiétez-vous pas, c'est 90 % dans la CEUM.
Ouais.
On a seulement 10 % Dernière conférence de presse de Carney qui dit, on est à 85-15. Y a-tu quelqu'un, Christy, qui va nous donner l'heure juste? Et moi, ce que je dis, oui, on est peut-être protégé à 85 %, mais allez dire ça à ceux qui sont pognés dans le 15 %, là. Et alors, y a-tu moyen que nos politiciens puissent faire Je me rappelle de René Lévesque, son tableau à la télé, là, être capable d'expliquer ça à monsieur et madame tout le monde, que ce soit simple à comprendre.
C'est notre job de faire ça.
Oui.
On va s'y acharner, mais pour nous aussi, c'est difficile d'aller chercher l'information complète souvent.
Oui.
Souvent, il y a des annonces, vous les avez vues vendredi, les dernières annonces du gouvernement Carney, là, enfin des mesures pour les secteurs québécois de l'aluminium, du cuivre,
oui,
de la forêt.
Oui, oui.
T'sais, ça fait longtemps que la forêt subit des tarifs injustes des Américains. Puis ça, c'est avant Trump, là. Puis le Canada fait rien pour ça. Mm. Fait que c'était grandement temps d'avoir des mesures. Oui, on devra les expliquer, mais en même temps, il faut aussi s'assurer que cette entente commerciale-là se poursuive dans le temps.
Oui.
Et c'est là qu'est l'enjeu glissant actuellement, là. Donc, les négociations devront avoir lieu. Faut prendre soin de notre monde, prendre soin de nos entreprises, mettre des mesures d'aide. Il y a des propositions concrètes qu'on a faites, entre autres, la subvention salariale. C'est pas encore en place. On y travaille.
Voilà, c'était le député de Berthier-Masquinongé, le bloquiste Yves Perron. Rappelons que le Bloc québécois est réuni en caucus jusqu'à mercredi.
Lanaudière PM, alimentation.
Il est 16h22, la 21e édition des journées Portes ouvertes Mangeons local, organisée par l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec, là, a une fois de plus été couronnée de succès en fin de semaine. Des milliers de personnes qui se sont déplacées chez plus de 50 producteurs du Québec, dont 17 dans la Lanaudière. Et Régent Turgeon a rencontré Robert Terrien au Serre-Point du Jour et Mario Lavoie à la Seigneurie des Patriotes, les deux situés à l'Assomption.
Monsieur Terrien, c'est votre première participation à cette journée porte ouverte Mangeons local comme entrepreneur dans le domaine des tomates en serre. C'est important pour vous d'y être cette année?
La visibilité est extraordinaire. Ça nous prend des gens ici. On est dans un rang, naturellement. Donc, on est loin, pareil, de la ville. Puis, c'est notre quatrième année d'existence comme compagnie. Fait qu'il était nécessaire pour nous de participer au serre, justement, les serres à participer à cette journée, là, les portes ouvertes.
J'avais l'occasion de rencontrer des potentiels acheteurs de vos produits. Comment vous perçoivent-ils aujourd'hui?
Les gens sont très locaux. Puis ici, on a invité des gens qui distribuent leurs produits en boutique ou en kiosque, parce qu'on est ouvert à l'année. Donc, ce qui nous amène à faire vivre une expérience aux gens que nous, c'est vraiment goûter Lanaudière, notre slogan. Donc, même si on est en agro-touristique Lanaudière, notre slogan goûter Lanaudière est très important, puis les gens le voient, puis ils apprécient, puis ils vont revenir.
Les tomates en serre, c'est particulier comme production, c'est exigeant.
C'est très exigeant pour... là, on vient de débuter notre quatrième année. Les plants sont nouvellement arrivés de cette semaine. Il y a tellement, mais tellement de particularités. Puis il y a surtout un virus qui circule que les gens peuvent transmettre. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre les serres, mais seulement la grande porte pour que les gens voient à l'intérieur l'immensité qu'on a ici. Mais on peut pas rentrer à cause du virus.
Au fil des ans, là, depuis 4 ans, vous avez, oui, produit des tomates, beaucoup de tomates. Mais vous avez un kiosque aussi qui vous permet d'offrir, on doit bien comprendre, des produits d'autres entrepreneurs agricoles de la région.
Oui, c'est ce que je disais. Donc, le kiosque, on sert vraiment à faire profiter de producteurs de la région qui sont éloignés de vivre, de leur permettre de vendre leurs produits ici. Puis à très, très bas prix, là, on prend pratiquement rien sur leurs produits. Là, c'est vraiment une vitrine que l'on fait avec eux, là.
Et ça relance toute l'importance de l'achat local, de manger local.
De plus en plus, il faut vraiment taper sur le clou « mangeons, mangeons, mangeons local ». On voit vraiment une différence comparativement. Il y a eu une baisse, il ne faut pas se le cacher, en 2023-24, après la pandémie. C'était vraiment fort. Il y a eu une baisse, mais là, il y a un regain d'énergie. Puis on va surfer là-dessus, sur le momentum de manger local.
Là, vous vendez directement aux consommateurs. Il y a des avantages aussi à passer par les grands distributeurs parce que, bon, les showbiz de ce monde et tout ça, il y a un prix à ça, là.
Écoutez, ici, M. Turgeon, on récolte environ 10 000 kilos de tomates par semaine. Donc, je pourrais pas le vendre juste régionalement. ça me prend un acheteur. Puis Sobeys est le client idéal ici parce qu'il est dans la zone Actec également. Donc Sobeys, on a eu vraiment un fit génial parce que eux favorisent l'achat local aussi. Donc goûter Québec, manger Québec, fait que Sobeys est un client partenaire.
Première année, première expérience, journée porte ouverte, mangeons local. On sera là l'an prochain?
On va définitivement être là l'an prochain. On est rendu à près de 200 personnes ici. Il est près de presque une heure, il reste environ trois heures. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, encourageons local. Puis...
Monsieur Lavoie, une 21e édition de la journée porte ouverte, mangeons local. C'est important pour vous d'y participer.
Oui, absolument. Donc, naturellement, les gens qui viennent à la seigneurie voient beaucoup qu'est-ce que nous on fait en agriculture. Ici, c'est une ferme d'élevage, donc on élève des daims. On donne l'information, naturellement, sur les élevages. Et ça nous permet aussi aux gens de faire connaître cette viande-là, ces produits-là.
C'est pas votre première année, là?
Écoute, je pense que je les ai toutes faites. Ça fait que, oui, ça fait plusieurs années. Et d'année en année, il y a énormément de gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous voir. Et ça permet aux gens aussi l'achat local, tout ça, que c'est important. Et on donne de l'information aussi beaucoup là-dessus. Là,
votre entreprise, on parle d'une entreprise agricole quand même, elle a évolué au fil des ans. Il y a eu des choix à faire.
Oui, absolument. Donc, pour ce qui est de la seigneurie, on est aussi une table champêtre. On fait partie de la Fédération des tables champêtres du Québec. Et on se dirige vers de la culture en serre. Donc, je crois que l'avenir est là. Ça fait que après 30 ans, on est peut-être dû là pour un petit changement là. Donc à partir de là, on va monter des serres. Il y a plein de nouveaux produits qui arrivent aussi. Donc bref, c'est l'avenir.
Parlez-moi d'importance de cet enjeu, l'achat local. Ça fait partie des journées portes ouvertes. Plus important, c'est du nouveau marketing, ça?
Oui, absolument. Il y a d'excellents produits au Québec. Souvent, les gens, ils prêtaient pas trop attention. On achetait des produits qui venaient des États-Unis, du Mexique. On sait maintenant ce qui arrive avec tout ce qui se passe aux États-Unis, et ça a sensibilisé les gens, justement, à l'achat local. Donc, c'est important, ça fait vivre des entreprises. Tout le monde est gagnant. On parle juste côté environnement, beaucoup moins de transport. Donc, c'est gagnant. Il faut absolument, là, même, je dirais, de y aller encore plus, là, de profiter, justement, des produits qu'on a au Québec.
Voilà, c'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Mario Lavoie de la Seigneurie des Patriotes. On a entendu également Robert Terrien là, des Serres Point du Jour à l'Assomption. On revenait sur cette 21e édition des Journées Portes Ouvertes Mangeons Local.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine Est pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense à partir du tricentenaire et ce, jusqu'à l'approche du pont d'étagement du CN. Là, par la suite, on reprend de la vitesse malgré que c'est pas un gros engorgement. Là. Traversée facile de la rivière des Prairies, côté Repentigny, ça va bien. 40 Est, pont Le Gardeur, on circule aisément, accès facile par Notre-Dame et Sherbrooke. 25 Nord, c'est dense, secteur de la jonction avec la 25, secteur de l'île Saint-Jean et Terrebonne, ça va très bien. Pont Sophie Masson, on circule sans entrave et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction ouest. C'est libre, direction est, dense depuis la montée des pionniers pour la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est la liquidation totale chez Nissan. Profitez de rabais incroyables sur les Kicks Sentra, Rogue et Kicks Play. Passez en concession et découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca. Un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
Le Waro Show revient pour une 4e édition à la Forêt Waro. Un spectacle unique au sommet du Mont des Conscrits avec le trio Lanaudois Garçons à marier. Rendez-vous au Belvédère pour un spectacle de musique traditionnelle haut en couleur. Réservez vos billets dès maintenant au Parc Régionaux / événements avec un S et laissez-vous emporter par la magie du Waro Show.
Le Waro Show avec Garçons à marier, le samedi 13 septembre.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croque, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
h 31, salut Pierre Jubinville.
Salut Claude.
Ben, Donald Trump qui se retrouve encore une fois dans l'eau bouillante.
Oui, c'est une nouvelle de dernière heure, la publication d'une lettre plutôt suggestive que M. Trump aurait écrite au délinquant sexuel Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003. Il remet en doute les propos qu'il a tenus en juillet, parce que M. Trump, Claude, souvenons-nous, avait affirmé que cette lettre n'existait pas. Il avait poursuivi le Wall Street Journal. Et ce sont des parlementaires démocrates qui l'ont rendu public aujourd'hui. La fameuse lettre signée par Trump montre une esquisse de buste féminin avec des citations attribuées au délinquant qui est mort en prison en 2019. Donc, pas de commentaires pour l'instant du côté de la Maison-Blanche, mais scénario prévisible, un démenti et une autre poursuite pour dommage.
Et ça se termine, cette lettre, Trump termine en disant « Joyeux anniversaire, que chaque jour soit un autre merveilleux secret. » Un autre sondage dévastateur, Pierre, pour la CAQ.
Ouais, ça ne va pas très bien pour la CAQ. C'est un sondage Palace Data qui montre que le Parti québécois a toujours le vent dans les voiles. 38% des intentions de vote. C'est une hausse de 7 points depuis le dernier sondage de cette firme. Faut dire que le PQ domine partout chez les francophones et les jeunes. Le Parti libéral est deuxième, 27%. Les conservateurs au troisième rang, 15%. Et la CAQ arrive au quatrième rang avec seulement 11%. Et dans le cas de la CAQ, c'est un autre recul de 4 points. Et Québec solidaire ferme la marche avec 8%.
Et il y a le député caquiste de Joliette qui, lui, veut faire mentir les projections.
Oui, il se représentera lors des prochaines élections. Il a confirmé sa candidature hier lors de l'émission Lanaudière et compagnie. La revitalisation du réseau routier demeure l'une de ses priorités.
On s'en cachera pas, on a un réseau routier qui a besoin d'amour. La sécurisation de la 158, je suis ça très très près, même si on voit pas de machinerie sur la route, il y a du travail d'ingénierie qui se fait. Donc la suite logique de tout ça, puis pour le reste, on verra ce que la population souhaite aussi mettre de l'avant. Moi, je suis à l'écoute des gens avant tout, là.
Les dernières projections de QC 125 donnent 64% des intentions de vote à un éventuel candidat péquiste contre 17% pour la CAQ et 7% pour les conservateurs. Et il y a un remaniement ministériel de François Legault qui devrait avoir lieu
mercredi.
Juste vous dire qu'André Lamontagne et Suzanne Roy ont décidé de céder leur place à de nouvelles recrues. Les deux députés vont quand même terminer leur mandat de député.
Est-ce que le député de Joliette, François Saint-Louis, sera nommé ministre. On le saura mercredi. Oui, ça pourrait.
Ça passe, c'est jamais.
Grande mobilisation en fin de semaine du côté de la Noraie pour la réflexion plutôt de la 138.
Oui, le maire de la Noraie, André Villeneuve, a maintenant l'appui de la population. C'est un tronçon, donc, de 7 km qui n'a jamais été revu en 30 ans. Une centaine de personnes ont répondu à son invitation de participer hier à cette marche de protestation le long de la route 138. Et Marie-Pierre Poulin y était.
Le maire de Lanoraie, André Villeneuve, travaille sur le projet depuis près de 30 ans. Il est convaincu que le dossier devrait figurer dans les priorités du gouvernement.
C'est pas normal d'avoir une route dans cette condition-là. C'est le chemin du roi, c'est la route verte, c'est une route nationale, puis là, c'est une honte nationale.
Louis-Martin Provençal, qui habite à Lanoraie, est également engagé dans ce projet depuis le tout début.
Ce bout de chemin de 7 km ne manque pas juste d'amour et d'entretien. Il est tout simplement plus carrossable de manière sécuritaire.
Le chargé de projet chez Vélo Québec, Louis Lalonde, indique qu'il s'agit du seul lien de la route verte entre Montréal et Québec qui demeure inachevé.
C'est serré, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas d'accotement. C'est une route qui est patrimoniale, le chemin du roi. On veut que les gens à vélo puissent vraiment là, l'apprécier, puissent lever les yeux de la chaussée parce qu'actuellement, ils sont arrivés dessus, on a des craintes au niveau des dangers.
Marie-Pierre Poulin, CFNJ Nouvelles.
Et Pierre, par ailleurs, il y a le maire de Joliette qui affirme qu'il faut rattraper le retard à améliorer nos routes.
Oui, Pierre-Luc Bellerose exhorte le ministère des Transports à revoir ses priorités. Selon lui, l'heure est donc au rattrapage et au réinvestissement massif pour mettre à niveau le réseau routier qui en a bien besoin.
C'est pas d'hier, j'étais conseiller politique avec un autre gouvernement, puis on vivait les mêmes frustrations. Donc, actuellement, on a un pont avec une voie fermée, on a un nœud Baudy qui est dans un état épouvantable, puis on pense à des nouveaux projets. Au Québec, on a 300 000 km de route, 30 000 km à peu près, sous l'égide du MTQ. Avant de penser à des nouvelles infrastructures, peut-on espérer au moins assurer la défection de celles qu'on a?
Et en terminant, Pierre, les députés du Bloc québécois qui sont réunis là, pour deux jours là, pour préparer la rentrée.
Oui, aujourd'hui et demain, ils sont prêts à en découdre avec le gouvernement de Mark Carney à la veille de la rentrée parlementaire qui aura lieu lundi. Les blocistes sont donc réunis en caucus à Québec pour définir leurs priorités et selon le député de longue date, c'est le cas de le dire, Louis Plamondon, la lune de miel avec le premier ministre Carney tire à sa fin.
L'étoile de M. Carney commence à baisser un peu, là. Les gens commencent à s'interroger, à poser des questions. On enlève tous nos tarifs, on ne donne rien en retour. Donc, la politique va être intéressante en Chambre.
Le député Plamondon, le doyen de la Chambre des communes, il faut le mentionner.
Je pense qu'il a 81 ans, mais pas certain.
Pierre Jumainville, merci.
Salut, Claude.
Il est 16h37.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM culturel.
L'actrice et scénariste lanaudoise Marie-Joanne Boucher était la conférencière invitée aujourd'hui au dîner de la Chambre des commerces du Grand Joliette au Château Joliette et Michel Arnois a eu l'occasion de la rencontrer.
Madame Boucher, vous nous avez raconté votre histoire. Moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens dans un premier temps, c'est que vous êtes une prairicoise, pas d'adoption, mais d'amour, je pense. Vous l'avez bien traduit aux gens aujourd'hui. Vous êtes dans la région depuis combien de temps?
Ah, dans la région de Lanaudière, plus de 17 ans, mais j'ai adopté Notre-Dame-des-Prairies il y a à peu près 14 ans. Oui, j'habite là, je suis une fière prairicoise.
Vous avez évidemment joué au petit écran dans plusieurs séries connues, Virginie entre autres, on ne fera pas le curriculum, on n'aura pas le temps, vous avez tellement fait de beaux projets, mais dernièrement, votre projet Sorcière s'inscrit comme étant un véritable succès avec les nominations que vous avez aux Gémeaux. Parlez-nous-en un peu.
Oui, bien, en fait, on est vraiment, vraiment très fiers de cette série-là. Les créatrices et moi, les trois actrices principales, en fait, on est les idéatrices de la série. Et puis, Céline Bonnier, Noémia Farrell et moi. Et, c'est sûr que le fait d'avoir 16 nominations cette année démontre bien que nos pairs nous dévoilent un peu leur affection pour pour l'objet qu'on a créé, qui était tout de même, qui sortait un petit peu des sentiers battus.
C'est votre bébé à vous, là. Il faut, vous avez nommé vos comparses, mais c'est votre bébé, ça.
Ben, en fait, c'est moi qui ai rallié ces gens-là, oui. Au départ, c'est moi qui ai eu l'idée. Et puis, je suis allée chercher ces belles actrices pour pouvoir m'accompagner là-dedans. Mais après, on a vraiment créé un synopsis qui pouvait nous ressembler, créer chacune de nos personnages. On est allé chercher un auteur. Mais oui, c'est moi qui ai eu l'idée de rallier ces gens-là pour faire notre projet, au fond, là, pour changer un petit peu le c'est comme si... parce que le fait d'être actrice, on est souvent en attente du regard des autres. Ah oui, on aimerait que tu sois dans notre série, par exemple. Mais là, on change un petit peu je dirais, pas le bâton de pèlerin, là, c'est pas comme ça que je le vois, mais tu sais, un peu la balance du pouvoir devient comme... on devient avec un petit peu plus de pouvoir, c'est-à-dire que ce dont on a envie de jouer tout au long des années aussi qu'on crée la série, on a le droit de dire « Ah, j'aimerais ça jouer, que mon personnage est là », alors que quand t'es juste actrice, tu joues qu'est-ce que t'as à jouer et ça se termine comme ça, là.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à de jeunes qui commencent, des jeunes entrepreneurs?
En fait, il faut pas avoir peur de faire certains deuils et de faire confiance à nos instincts, parce que souvent ce qui arrive, c'est que on se doute pas d'où la vie peut nous mener, c'est ça. On se doute pas. Moi, si on m'avait dit il y a 30 ans, toi, là, tu vas écrire un spectacle de théâtre et tu vas produire des spectacles de théâtre, puis tu vas engager des gens, j'aurais été la première à dire « Mais non, c'est impossible. » Parce que déjà qu'on me donnait la chance d'être actrice, je me suis sentie longtemps comme une imposteur, en fait, de dire « Ah oui, je suis une artiste, je suis une actrice. » Parce que quand on parle un peu, je dis pas que je viens d'un milieu très... tu sais, je suis pas une transfuge de classe, je dirais pas ça, mais à certains égards, oui, puisque je viens pas d'une famille qui me dédiait vers le côté artistique. C'est moi qui l'a développé. C'est vraiment grâce à mes études, grâce à certaines personnes. Oui, c'est sûr, j'ai eu de l'aide, mais c'est vraiment moi qui est allé chercher ça à l'intérieur de moi.
Et vous n'entendiez pas que le téléphone sonne. Vous allez créer les projets littéralement. Vous avez même écrit des livres de recettes. C'est quand même pas rien.
Oui, c'est ça. Ben oui. En fait, c'est que j'ai... j'étais, à un moment donné, j'étais très tannée de ça, d'attendre. D'attendre après le téléphone. Ça m'ennuyait. Puis je me disais, non, il va falloir qu'il se passe autre chose parce que sinon, je vais être obligée de... Ben comme je l'ai dit dans la conférence, j'ai dit que mon agente a été comme une bougie d'allumage. Elle m'a dit, soit que tu arrêtes, soit que tu fais ton propre projet. Puis voilà, là j'ai développé tout cet esprit-là. Puis aujourd'hui, je peux dire que le côté entrepreneur et le côté actrice, ça me plaît autant l'un que l'autre.
Ce qui est drôle, dans votre conférence, vous disiez, bon, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie quand j'étais jeune, plus jeune, mais maintenant, j'ai encore plus d'idées à 50 ans, j'ai encore plus d'idées qu'avant. Comme quoi, avancer en âge, ben, ça a ses beaux côtés.
Ben en fait oui, je pense que tu sais on est beaucoup dans une période, dans une époque que quand on est arrivé, ben, mettons 50 ans, c'est un peu la moitié de ta vie, donc tu sais mais au contraire, ce n'est pas la fin justement parce qu'on est on est muni de toutes nos expériences, on est gonflé par toutes ces expériences là, puis ça fait en sorte qu'on a oui plus confiance en nous bien sûr, puis l'énergie que j'ai à mettre dans mon travail, je le mets aux bons endroits. En fait, je disais tout à l'heure, j'ai plus d'idées mais j'ai un peu moins d'énergie qu'à 25 ans, bien sûr, tu sais. Sauf que les places où est-ce que je décide de mettre des énergies, c'est très bien ciblé. Je mettrai pas d'énergie dans un projet que je sais qui fonctionnera pas. Tu sais, essayer de rentrer un carré dans un rond, là, je fais non, ça, c'est pas pour moi, puis c'est pas grave, on passe à un autre appel. Mais les idées amènent les idées, hein.
On a de très belles salles dans le coin de Joliette, dans le coin de Notre-Dame-des-Prairies également. Peut-être un projet local bientôt?
Oui, ça serait... Moi, je rêverais de passer un été à travailler au centre culturel, de jouer ici. La seule chose, c'est que c'est souvent des théâtres... Parce que je pense que ça serait arrivé, mais moi, je suis pas une chanteuse. Tu sais, c'est souvent des théâtres, ils se spécialisent, puis c'est très bien. Peut-être un jour, vont changer un peu de direction, je ne sais pas, ça va peut-être arriver. Mais ça serait vraiment un de mes souhaits, de venir à tous les soirs, jouer, de partir de la maison, de prendre mon vélo, puis de venir travailler chez nous, avec mon monde à moi aussi. C'est parce que c'est ma communauté, puis moi, je suis très près de ma communauté.
La comédienne Marie-Joanne Boucher, qui était ce midi la conférencière invitée là, au dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliet. On l'a pu la voir récemment dans la série Sorcière, qu'elle a écrite d'ailleurs aux côtés de Noémie O'Farrell. Malheureusement, ben, la série a été retirée de l'antenne après seulement 2 saisons, mais c'était excellent. J'ai vraiment adoré cette série-là. Dans un moment, Pierre Paquette.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
J'ai une question qui me travaille. Est-ce vrai que le pourboire m'appartient si c'est moi qui donne le service?
C'est vrai, et ce, peu importe votre salaire. Il peut aussi exister une entente sur le partage du pourboire avec d'autres travailleuses et travailleurs. Une norme du travail pour les questions qui vous travaillent. Un message de la CNESST.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus! Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Mouvair et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Bonjour, c'est Kim de Joliet Nissan. C'est la liquidation totale chez Nissan. Profitez de rabais incroyables sur les Kicks, Sentra, Rogue et Kicks Play. Passez en concession et découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Joliet Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va très bien, Pierre. Ça va vraiment pas bien pour François Legault, par contre, et son gouvernement. Nouveau sondage Palace Data, l'actualité qui a été publiée là, au cours de l'après-midi. On apprend que la CAQ se retrouve désormais au 4e rang derrière les conservateurs.
Oui, et puis avec des résultats comme ça, là, c'est très probable qu'il n'y aura aucun député de la CAQ à la prochaine élection. Bon, évidemment, c'est dans un an et quelques jours, là, je regardais le dernier sondage, pas le dernier sondage, la dernière répartition des sièges par Québec 125. Avant le sondage, il donnait 0 à la CAQ, ou entre 0 et 3, mais
ça changera
probablement.
Pas.
C'est sûr. Ça changera pas. Alors là, le remaniement ministériel de mercredi, dans ce contexte-là, là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, là. Je pense que c'est la dernière carte que François Legault est capable de jouer, mais je vois pas vraiment comment ça peut changer la dynamique politique au Québec, là, parce que en un an, les nouveaux ministres n'auront pas le temps de faire leur marque. Les anciens sont déjà marqués, alors ça changera pas grand-chose au résultat final. Mais encore une fois, on se le rappelle, en un an en politique, c'est un siècle.
Hein? Oui, c'est très, très long. Il peut y avoir des changements, ce serait quand même étonnant. Ben parce que, tout un revirement de situation, là.
Oui, mais on se rappelle qu'à l'automne dernier, on disait que les conservateurs allaient gagner les élections fédérales. Maintenant, c'est les libéraux qui l'ont gagné.
Ouais.
Évidemment, il y a eu le départ de Justin, mais peut-être qu'il y aura des choses comme ça, mais je crois pas que ce soit suffisant pour que la CAQ puisse, disons, garder le pouvoir. Par contre, peut-être qu'elle pourrait avoir une défaite plus honorable que qu'est-ce qui s'annonce.
Bon, ben pour vous donner quelques chiffres, le Parti québécois se retrouve avec 38% des intentions de vote, donc en hausse. Parti libéral qui est stable à 27%. Les conservateurs d'Éric Duhem assez stable aussi à 15%. 11% pour la CAQ, donc au 4e rang. Et Québec solidaire qui ferme la marche là, avec un maigre 8%. Ruba Gazal, on peut comprendre qu'elle ne passe pas, mais il n'y a toujours pas de co-chef là, chez Québec solidaire, là, de co-porte-parole.
Ouais, ils devraient le choisir dans les prochains mois là. Fait que, mais je crois pas que ça aussi, ça va changer quoi que ce soit là. Je regardais là aussi la répartition des sièges que donnait Québec 125 avant ce sondage-là. On était entre 3 et 7, probablement 5. Alors, c'est vraiment très très faible par rapport à ce qu'on a déjà connu pour Québec solidaire. Bon, c'est le PQ finalement qui récolte tout le mécontentement face à la CAQ parce qu'il y a ce côté nationaliste aussi de l'électorat caquiste et d'une partie de l'électorat de Québec solidaire qui préfère pas prendre de chance puis de voter pour le Parti québécois pour être sûr que la CAQ ne prenne pas le pouvoir. Je regardais, par exemple, les chiffres que tu donnais tout à l'heure, 38% globalement, mais chez les francophones, le PQ est à 46%.
Oui, oui.
Le Parti libéral du Québec est à 27% globalement, mais chez les francophones, il est à 17%. Alors,
le Parti libéral, son problème, c'est qu'il sort presque pas de l'île de Montréal, à part en Outaouais, là. Ouais.
C'est ce que je disais à Pablo Rodriguez. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Le problème, c'est pas toi, c'est le Parti libéral. Ils sont captifs d'une clientèle qui, dès qu'ils vont ouvrir un peu la porte à l'électorat francophone, ils se font taper ses doigts puis ils risquent de perdre leur électorat, soit anglophone ou allophone. Donc, ils sont piégés. Alors, je sais pas si Pablo va être capable de sortir le Parti libéral du Québec de cette ornière-là. Mais à première vue, il a pas fait de miracle depuis qu'il est arrivé comme chef du PLQ. Et Saint-Pierre Plamondon continue sa montée. Là, encore une fois, on a vu que par rapport aux autres sondages, il y a une montée importante. Et là, il va y avoir des élections partielles avant l'élection générale.
Oui,
alors
c'est
ça,
vrai.
Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose d'un peu
Saguenay.
Particulier. Oui, Saguenay. Puis on parlait d'une deuxième. J'ai pas été capable d'identifier de quelle il s'agissait. Mais en fait,
c'est parce que Abitibi-Est, faut rappeler ce départ assez fracassant semaine dernière du député caquiste qui s'est fait monter la porte, mais il demeure en poste comme en siège comme indépendant là.
Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de confusion là-dessus, mais de toute façon, il va y avoir une élection partielle. Ouais. Alors, moi, s'il était M. Legault, je la ferais la plus vite possible.
Bon, justement, regarde, rapidement, je vais t'amener sur un autre terrain. Si on parle de remaniement ministériel cette semaine, Pierre, bon, ça se déroule mercredi. On aura l'occasion de se reparler, d'ailleurs, mercredi, là. Mais
oui.
J'asais avec quelqu'un en fin de semaine, un élu d'un autre palier de gouvernement, qui me disait que dans son esprit, il pourrait peut-être y avoir des dissidents à la CAQ qui pourraient former un groupe parlementaire.
Ah, c'est toujours possible. On a vu ça dans le cas de...
Du Bloc québécois, par exemple?
Ben, Bloc québécois, oui. À sa fondation, là.
Mais
ça,
non, mais par la suite, à l'époque de Martine Ouellette.
Oui, Martine Ouellette, mais il y a eu aussi, du côté des conservateurs, là, il y a eu un groupe aussi qui s'était formé, qui s'appelait, je me rappelle plus du nom, mais... Non, c'est toujours possible, ça. Mais évidemment, est-ce qu'ils vont être reconnus par... l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont se retrouver dans ce groupe parlementaire. Mais en dehors des partis politiques, on peut former des groupes parlementaires et ça s'est vu dans le passé. Maintenant, pour la CAQ, je pense que M. Legault a encore beaucoup d'ascendant sur une bonne partie des députés actuels. Moi, je verrais pas, en tout cas, une saignée très importante de ce côté-là, mais c'est une possibilité disons dans le parlementarisme britannique, c'est des choses qui peuvent se faire.
Mais moi, je crois qu'il y aura certainement de la grogne à la CAQ, parce que là, tu peux t'imaginer de nombreux députés d'arrière-ban qui, eux, depuis nombre d'années, espèrent un jour avoir un poste de ministre ou avoir un portefeuille. Et qui se retrouve encore une fois en députation d'arrière-ban, il y aura ça, une certaine frustration, là, c'est clair.
Oui, ça c'est sûr. Puis bon, c'est toujours le problème des remaniements ministériels. Ça fait des heureux, mais ça fait beaucoup de malheureux. Mmh. Par contre, il faut signaler qu'il a réussi à convaincre Suzanne Roy et André Lamontagne de laisser leur place.
Oui,
et
oui.
Ça lui donne une petite marge de manœuvre. Mais tu as raison de dire qu'il va y avoir plein de noms appelés qui se considéraient être en droit d'être appelés.
Ouais.
Mais en même temps, je pense que la plupart des députés caquistes sont conscients du fait que s'il y a de la grogne actuellement puis de la bisbille, ça va nuire encore plus à leur élection. Et eux, je pense que la première, le premier espoir qu'ils ont, c'est de, malgré la défaite de la CAQ, d'être réélu dans leur circonscription. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que, je dirais, la bisbille s'installe au sein du parti.
Alors, Pierre Paquette, on va se reparler mercredi, journée du remaniement ministériel. Justement, je te remercie beaucoup.
Merci. À mercredi.
Lanaudière PM. Tourisme.
Samedi dernier avait lieu le Waro Show du côté de la forêt Waro. Et de plus, ben, il y a un autre événement fort intéressant en fin de semaine sur le mont des conscrits dans le secteur de la Grande Jetée à Chersey. Et David Lapointe, il est le directeur général de la Société des parcs de la Matawinie. Il s'entretient avec Michel Arnois, Jacques Plante et Nicolas Bellemare.
J'ai presque envie de vous demander, M. Lapointe, de nous donner votre titre qui entre pas sur une carte d'affaires.
Eh ben, bonjour messieurs. Bonjour. David, nouvellement directeur du développement au parc, développement écotouristique régional, on va dire. Fait que donc c'est nouveau un peu pour moi, mais dans le fond c'est que l'affaire a tellement grossi qu'on a décidé de séparer un peu mes fonctions. Je sais que j'occupais les fonctions de directeur général depuis 15 ans là, à la Société des parcs. Fait que on a dit qu'est-ce que tu veux choisir dans tes fonctions, qu'est-ce que tu veux garder. Fait que j'ai dit je reste au développement puis je reste au marketing et à la représentation des parcs régionaux.
L'aspect récréo-touristique est un moteur dans la MRC Matawinie, il faut le mentionner. On a des bijoux, hein, c'est vraiment des parcs chez nous dans Matawinie,
oui,
Jacques.
Oui.
C'est assez, il y a un développement. D'ailleurs, hier, là, je vais faire une aparté, il y avait un bon spectacle, il y avait Waro Show hier. Comment ça a été?
Première édition du Waro Show avec Bernard Adamus. Et puis, donc, nos objectifs, première édition, on visait environ 300 spectateurs. On en a eu 425, aïe, là, aïe, j'ai aïe, pas aïe. Les nombres exacts aujourd'hui.
Ça, c'est un spectacle en plein air, c'est ça?
C'est en plein air. Dans le fond, la Société des parcs, on s'est porté acquéreur d'une sablière qui est tout près, qui est à l'entrée du parc de la forêt Waro. Comme je dis toujours, c'est une belle sablière parce qu'il y a une belle régénérescence, là, d'une sablière qui était utilisée au temps de la création de la route 125, là. Mais depuis ce temps-là, c'est 44 hectares, donc en proximité du parc, fait qu'on protège, nous, puis qu'on met en valeur. Fait qu'on avait acheté ce site-là pour aménager des campings, puis tout ça, là, vraiment le modèle parc, si on veut. Ouais. Mais c'est un amphithéâtre naturel. Fait que donc,
la donc, nature... Vous devenez le deuxième amphithéâtre naturel dans Lanaudière après.
Ah oui, on veut pas.
Après Joliette.
On veut pas faire de l'ombre à Joliette, au contraire, mais nous, c'est vraiment en milieu naturel dans le parc, si on veut, là, en plein air. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on s'oriente, là. Puis d'ailleurs, la formule qui était offerte, c'était avec du camping. Donc, c'est avec ton droit d'accès, tu pouvais camper sur le site, puis tout ça. Fait que.
Quelle belle formule.
Ah oui, fait qu'il y a eu beaucoup de monde. 425, on est bien contents des résultats. Surtout l'équipe du parc de la forêt qui ont travaillé très fort pour aménager le site là, dans les derniers mois, semaines. Là, fait qu'on est bien fiers de ça.
Il faut dire que la semaine prochaine, il y a une autre activité bien intéressante pour être récompensé en montant finalement au sommet. On va avoir la musique, un show de garçons à marier. Ça, c'est un autre concept que, très différent de celui d'hier.
Vous êtes en train de me dire qu'on monte la montagne et une fois rendu en haut, on a un spectacle.
Au sommet.
Mais voyons
effectivement,
donc.
C'est la troisième édition maintenant qu'on fait ce spectacle-là sur le mont des conscrits, là, dans le secteur Grande Jetée à Chersey. Puis ça fonctionne bien. Les gens donc viennent faire une randonnée. On fait ça en fin d'après-midi. Fait qu'on assiste au coucher du soleil. Là, puis là, on assiste à un spectacle comme ça un peu. Bien évidemment, c'est sans électricité. Là. Fait que c'est un show à cappella, comme on va dire. Mais c'est parfait. Là. Garçon marié, on a bien hâte de les entendre.
Ça prend de la voix.
Ça prend de la voix, c'est ça. Mais c'est très convivial. Là. Puis on attire comme ça une bonne cinquantaine, 75 personnes à chaque
intéressant.
Fois.
Intéressant. Montée, ça prend combien de temps?
Oui.
Ben ça dépend de votre pas de marche, là, mais c'est une bonne montée. Là. C'est pas sur le trottoir à l'horizontale, okay, comme on va dire.
Ça veut dire, Michel, tu dois y aller le matin si tu veux te rendre pour être là le soir.
Mais il faut venir voir ça, là, parce que si ça vous intéresse, effectivement. On est bien contents de ces éditions-là. Puis les dernières éditions faisaient beau, coucher de soleil, le début de l'automne, là, c'était parfait.
Vous êtes un amoureux du plein air, je le sais, parce que on se connaît depuis un petit bout, vous et moi. On avait une chronique dans l'édition précédente de La Naudière et compagnie. Il n'est pas impossible que ça revienne. On y travaille.
On l'espère.
Oui. Écoutez, l'impact socio-économique du plein air en Matawinie, c'est important?
C'est très important. On le sait, là. Bon, nos territoires sont magnifiques. Nos territoires sont à proximité de tout. Nous, la Société des parcs, on gère quatre parcs. La forêt Waro, le parc de la Chute à Bulles, les sept chutes, toute le lac Taureau. Et puis, ben, on nous l'avait annoncé là, qu'on aurait un été chaud avec ce qui se passe au sud. Là, fait que les Québécois ont redécouvert ou ont visité le Québec plus que jamais. Fait que ça s'est fait sentir, évidemment, chez nous. Ça s'est fait sentir dans nos parcs.
C'est le point positif, ça, dans le fond. Hein?
Oui, oui, exactement. La seule chose qu'on contrôle pas, c'est la météo. Fait que l'été a commencé un petit peu bizarre, mais on s'est bien rattrapé par la suite. Puis il a tellement fait beau, fait que nos parcs se sont remplis, nos campings se sont remplis, les gens étaient là, étaient présents. Fait qu'on est bien contents de cette saison.
C'était David Lapointe, le directeur de la Société des parcs de la Matawinie. Ici Claude Fournel, merci d'avoir été là pour cette édition de l'Anaudière PM. Je salue nos collaborateurs François Morin, Jacques Plante, Michel Arnois, Régent Turgeon, Pierre Jubinville ainsi que Pierre Paquette. Manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad. On se retrouve demain. On sera là à 16h pour une autre édition de l'Anaudière PM. Salut!